Les programmes du studio Kalangou continuent. Il vient d'être 18h, l'heure de votre journal en français au micro Rukaya Abdourahmane. Les titres. Colloque national aujourd'hui à Niamey pour trouver la voie afin de faire avancer les droits des femmes dans un contexte hostile. C'est sous l'égide de l'Association des professionnels africains de la communication APAC section Niger. Des précisions dans ce journal. Un autre colloque, mais celui-ci est international et c'est sur l'esclavage au Sahel. Il est conduit par l'association Timidria et a pris fin avec un appel dit de Niamey demandant de libérer les militants anti-esclavagistes. Le contenu dans un instant. Quel avenir pour le métier de forgeron en Amaro, région de Tillabéri, avec le développement et l'importation des objets de l'extérieur? C'est en partie magazine de ce soir avec notre correspondante locale, Balkis Atahiru. Bonsoir à tous. Entre octobre et décembre 2018, selon les Nations Unies, 600 329 personnes seront en crise alimentaire sur l'ensemble du Niger, rapporte le bulletin onusien édité par OCHA. Les experts de la sécurité alimentaire indiquent qu'il s'agit des personnes avec des déficits en céréales de plus de 50%, ainsi que des ménages pastoraux ayant enregistré des fortes mortalités de leurs animaux suite aux inondations et des victimes d'autres chocs qui ne disposent pas des ressources conséquentes. À ces personnes s'ajoutent les populations des zones d'insécurité impactées par les mesures sécuritaires telles que la fermeture des marchés, les déplacements des villages, les restrictions des mouvements des personnes et des biens. La force du G5 Sahel, qui regroupe les armées du Burkina, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, existe depuis 4 ans exactement. Une force qui, en dépit de son rôle éminemment important, a du mal à assurer pleinement sa mission faute de moyens financiers qui tardent à venir d'ailleurs. Le spécialiste des questions sécuritaires, Dr Diko Abdourahmane, basé à Zander, pense que les pays du G5 Sahel doivent se donner les moyens pour l'autonomie de cette force conjointe.
Aujourd'hui, le G5 Sahel qui est créé manque des moyens sur lesquels il peut s'appuyer pour pouvoir ramener la paix. Et je trouve ça irréaliste pour les pays africains, pour les pays fédérés autour du G5 Sahel qui se déplacent de l'Union européenne au niveau des États-Unis pour penser retrouver de l'argent et revenir sécuriser. Et je trouve 4 ans d'existence assez suffisant pour pouvoir ramener la paix au Mali. Mais la situation à laquelle nous assistons est une question qui nous fait montrer carrément les limites d'une intervention. Souvent la question est de savoir pourquoi nos États africains, en particulier les États du G5 Sahel, seraient incapables d'abord de partir sur un objectif unanime que nous devrons financer, nous devrons former, nous devrons prendre en charge d'abord la politique que nous allons mener et aussi projeter une sécurisation de l'espace sahélien tout en tenant compte d'un certain nombre d'intérêts géopolitiques. Et aujourd'hui, la question la plus actuelle, la plus expressive, à laquelle nous n'arrivons pas à donner une réponse immédiate, c'est justement cette instrumentalisation de la question de la sécurité.
Propos recueillis à Zender par Mustapha Mansani. Renforcer le contrôle parlementaire pour faire réussir le G5 Sahel, c'est le but recherché à travers la création du comité interparlementaire regroupant les députés des 5 pays membres du G5 Sahel en juillet dernier à Niamey. Selon le point focal nigérien, le comité est ouvert aux parlementaires des pays de l'Alliance Sahel. Au micro de Habib Garba, Abdou Issaka donne les objectifs du dit comité.
Le comité interparlementaire vise l'amélioration de la transparence et la gouvernance démocratique dans la mise en œuvre des partenariats et initiatives du G5 Sahel. À terme, il devra permettre au Parlement d'assurer une meilleure efficacité de l'aide publique au développement. Ce comité est ouvert aux parlementaires des pays de l'Alliance Sahel et certaines adhésions se sont déjà manifestées. Notre pays a été choisi à l'unanimité pour abriter le siège du comité interparlementaire du G5 Sahel.
Notons que le 13 décembre, lors du sommet de ce comité tenu à Paris, il a été décidé de confier la présidence de cette structure de contrôle à Hussein Tini, président du Parlement nigérien. Comment faire avancer les droits des femmes dans un contexte hostile? C'est à cette question que vont répondre les participants au colloque organisé aujourd'hui à Niamey par la section Niger de l'Association des professionnelles africaines de la communication APAC Niger, appuyée par les Pays-Bas, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et l'ambassade des États-Unis au Niger. Selon Amina Nyandou, présidente d'APAC Niger, une communication efficace en faveur de ces genres d'action pourrait amener les pouvoirs publics à prendre des décisions en faveur des femmes détenues par les terroristes. Elle est au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Nous sommes là pour réfléchir à comment communiquer pour avancer les droits des femmes dans un contexte hostile. Ce colloque est une opportunité de parler des femmes victimes de violences, surtout en période de conflit. Le Niger, dans certaines de ses parties, est en train de subir des attaques terroristes et que c'est les femmes qui payent de lourds tributs. Les femmes ont été enlevées dans la région de Diffa. Sans nouvelles d'elles, nous nous sommes dit qu'une communication efficace en faveur de ces actions fera en sorte peut-être qu'il y ait des décisions au niveau des pouvoirs publics en faveur de ces femmes détenues par ces groupes terroristes. Donc c'est important pour nous d'organiser ce colloque avec toutes les parties prenantes, les partis politiques, le Parlement, le Conseil supérieur de la communication, les acteurs de la société civile, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, pour discuter et échanger sur ces questions-là.
Un autre colloque, cette fois-ci international, sur l'esclavage au Sahel vient de se tenir à Niamey sous la conduite de l'association Timidria avec la collaboration de plusieurs universités et le soutien de l'ambassade des États-Unis au Niger. Le colloque s'est achevé par un appel dit de Niamey demandant notamment la libération des militants anti-esclavagistes. Le résumé avec Ali Bouzou, secrétaire général de l'association Timidria, au micro de Alassane Kouzi Mamadou.
En tout cas, on a demandé à la CEDEAO, à l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies d'arrêter les financements qu'ils font à la Mauritanie et de la sanctionner même et de demander la libération quand même immédiate et sans condition de nos militants anti-esclavagistes qui sont en prison, à savoir Biram Da Abeid et Messaoud. Et deuxièmement, on a demandé à la République du Mali et du Burkina Faso d'adopter une loi qui criminalise l'esclavage à l'instar des autres pays du G5 Sahel. Et on a demandé à la République du Niger et la République du Tchad pour une application effective de la loi, puisque là, il y a des lois. Et aussi, on a demandé à la République de l'île Maurice de mettre fin quand même à la discrimination raciale dont chaque moment la population victime là-bas.
Dans l'adresse à la nation du président à l'occasion du 60e anniversaire de la République du Niger, c'est un rappel, Issoufou Mahamadou a parlé du dialogue politique qui doit se poursuivre au Niger. Pour le représentant des partis politiques non affiliés qui siègent au Conseil national du dialogue politique, CNDP, le chef de l'État doit s'impliquer lui-même dans la recherche du consensus au sein de la classe politique en écoutant les trois blocs. Hambali Dodo est au micro de Moussa.
La situation à l'heure actuelle se caractérise par une incompréhension entre les trois blocs. D'abord, au niveau de la majorité, avec une orientation et une tendance à l'extrême rigueur. Or, à l'heure actuelle, personne ne peut imposer ses opinions en contraignant les autres à la collaboration. L'opposition politique, qui souvent, par sa politique de la chaise vide, ne favorise pas la tenue d'un dialogue participatif. Nous autres non-affiliés sommes contraints de trancher entre les deux positions qui sont conflictuelles. Il est absolument difficile de se positionner au juste milieu. Cet appel du président de la République aujourd'hui est le bienvenu. Et nous souhaiterons que le président de la République prenne l'initiative lui-même de conduire ce dialogue-là, ne serait-ce qu'en convoquant les représentants des différents blocs pour échanger afin de trouver les solutions idoines.
L'examen du projet de loi sur l'alimentation scolaire a été ajourné hier à l'Assemblée nationale du Niger. Le texte introduit pour examen par les députés du groupe parlementaire PNDS-Tareya vise à cadrer la gestion des cantines scolaires. Écoutons à ce sujet Sadou Dilé, président de ce groupe, au micro de Habib Garba.
C'est les députés du groupe parlementaire PND Sareh qui ont fait cette proposition, qui ont suivi toute la procédure. Mais il se trouve qu'à la dernière phase, donc celle de l'adoption, on est confronté à une question préjudicielle. Parce qu'il y a certains députés qui s'interrogent à savoir si la Constitution prévoit que le domaine soit légiféré par une loi ou par un décret. Devant cette question, nous avons préféré ajourner l'examen de la loi jusqu'à ce qu'on requiert l'avis de la Cour constitutionnelle.
Qu'est-ce que vous allez vouloir changer en ce qui concerne l'alimentation en milieu scolaire?
L'alimentation en milieu scolaire, pour être précis, il s'agit en fait de l'organisation de l'alimentation en ce qui concerne les cantines scolaires, dans les milieux nomades et aussi dans tous les établissements où l'État ou les partenaires apportent des assistances en matière d'alimentation pour permettre aux élèves d'avoir une alimentation équilibrée qui puisse leur permettre d'étudier normalement.
Les élèves de l'école Irfan du quartier Rive Droite de Niamey bénéficient cette semaine de séances de sensibilisation en gestion des déchets et du recyclage. Une initiative conduite en milieu scolaire par une femme soucieuse de la protection de l'environnement. Notre reporter était sur place ce matin. Voici son reportage.
Dans la cour de récréation de l'école Irfan, plusieurs bancs en pneus recyclés et des poubelles de vieux tonneaux repeints sont disposés ça et là. Depuis 3 jours, les élèves de cet établissement sont sensibilisés en gestion de déchets sur le recyclage en milieu scolaire par Madame Sani Amina, une femme d'expérience. Pour elle, les déchets produits à l'école peuvent être transformés en des choses utiles.
L'école doit être propre et même les déchets qu'on produit à l'école sont recyclables en objets utiles. Des fourneaux avec des boîtes de tomates, des bateaux avec des papiers recyclés avec les plus jeunes. Si on leur inculque ce comportement dans la tête, on espère que d'ici quelques années, le problème de déchets et de salubrité n'aura plus sa place au Niger.
Les élèves sont réceptifs et ont désormais des notions sur le recyclage à l'exemple de Nana Aïchatou.
J'ai appris beaucoup de choses. Les sachets plastiques ne sont pas bons. On peut les transformer en pavés. Désormais, je vais aussi apprendre à mes autres camarades ce que j'ai appris.
Habibullah, âgé seulement de 13 ans, songe déjà à la protection de l'environnement en adoptant des gestes écologiques.
Désormais, quand je verrai les objets jetés en bas, je vais les prendre. Car en protégeant son environnement, on peut se protéger.
Le rêve d'Amina, initiatrice de ce projet, est de faire bénéficier tous les enfants du Niger de son savoir-faire et du savoir-vivre qu'est la question des déchets à l'école.
Et puis la partie magazine de cette édition, les forgerons ont toujours exercé leur métier dans la société nigérienne traditionnelle. Aujourd'hui, avec le développement et l'importation des objets fabriqués hors des frontières du Niger, les forgerons sont moins sollicités. Ibrahim Hassan est forgeron à Namaro dans la région de Tillaberi. Au micro de notre correspondante locale, Balkissa Tahirou, il explique les avantages et difficultés de son métier.
Depuis la nuit des temps, la forge est une activité qui génère des avantages et des revenus. C'est un métier de génération en génération qu'on retrouve un peu partout au Niger. Exercé par les maîtres du feu ou forgerons, il existe des forgerons du fer noir, ceux qui travaillent le fer blanc et les spécialistes de l'or. Ibrahim Hassan, forgeron à Namaro dans la région de Tillaberi, ouest du Niger, a appris ce métier avec son père.
Vous entrez où? Il y a longtemps que j'ai débuté le métier de forgeron avec un apprenti de mon défunt père qui lui-même ne vit plus. Lorsque j'ai maîtrisé le métier, je me suis installé ici. Celui que j'ai trouvé est vieux. Il n'a pas assez de force pour le travail. Et chaque samedi, je viens lui prêter main forte jusqu'à son décès. C'est ainsi qu'on m'a demandé de m'installer définitivement ici. C'était un spécialiste du fer blanc, c'est-à-dire l'argent et l'or. Et avec la rareté de ces métaux, son coéquipier s'est reconverti dans le travail du fer noir pour fabriquer des couteaux, des dabas, des hilaires et d'autres outils. Le matériel que j'utilise, tel que le marteau et l'enclume, je les ai achetés à Niamey. Mais les pinces et bâtonnets, je les ai fabriqués moi-même. Nous avons la clientèle qui vient de partout, notamment Touroudi, Karma et Dargol, et en grand nombre. C'est la hilaire et le daba qui sont les plus rentables au moment de la traite, c'est-à-dire la saison des pluies. Le bon travail profite toujours, sinon notre héritage serait perdu.
Comme toute autre activité, le secteur de la forge a aussi ses difficultés, nous explique Ibrahim Hassan.
Les difficultés ne manquent pas, car souvent, nous fabriquons les outils, mais il n'y a pas d'acheteur. On n'a même pas 100 francs pour le lait.
Malgré ces inconvénients, La forge a aussi de multiples avantages car c'est un gagne-pain qui nourrit bien son homme, explique le forgeron Ibrahim.
Mais Dieu merci, je m'en sors très bien. C'est dans ce métier que je me suis marié 3 fois et j'entretiens ma famille là-dedans.
De nos jours, le travail de la forge est de moins en moins exercé dans plusieurs villages du Niger car certaines jeunes voient là un saut métier. Pourtant, comme dirait l'autre, il n'y a pas de saut métier mais de sottes gens.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir.